Comment vont les prêtres de France? C'est le thème de notre émission aujourd'hui, un club des hommes en noir qui réunit pardon, justement des prêtres, vous les connaissez bien, et un laïc pour mieux cerner ceux qui sont souvent regardés aujourd'hui négativement, évidemment par la société, mais plus étonnamment également par une partie du monde catholique. Parmi les prêtres présents aujourd'hui, j'accueille le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus.
Bonjour, cher monsieur.
Bonjour mon père, merci de votre présence, ça faisait longtemps. L'abbé Hervé Benoît, prêtre diocésain,
C'est cela même. Bonjour, Philippe. Merci de votre invitation.
recteur du sanctuaire
Notre-Dame des
des
enfants.
enfants. Voilà, et c'est pas à ce titre que vous êtes là, mais titre personnel, etc. Le père Danziec également, chroniqueur religieux bien connu.
Merci, ravi de vous retrouver.
Et merci de votre présence. Alors, peut-être qu'avant de vous demander votre analyse sur ce... Ah, pardon, le laïc de l'étape, je l'oublie complètement.
Pour parler des prêtres, ça peut paraître logique d'oublier le laïc.
Oui, vous l'avez peut-être reconnu, Olivier Figueras.
Bonjour Philippe.
Merci de votre présence.
Merci à vous.
Alors, je disais que, avant de parler des prêtres, de leur situation en France, et contrairement à ce que vous venez de dire, je pense que le regard du laïc est très important sur ce sujet. J'aimerais avoir votre avis sur un homme d'église qui vient de dont l'âme a été rappelée à Dieu, à savoir Monseigneur Jacques Gaillot, dont on entend ces jours-ci beaucoup parler. Quand on meurt, tout d'un coup, on redevient. On a ce petit moment de célébrité, de gloire. Je ne suis pas sûr qu'on en profite pleinement de l'autre côté. Est-ce que la figure de Monseigneur Gaillot est une figure qui vous a marqué les uns et les autres? Père Thomas, vous me regardez avec inquiétude.
Non, mais marqué, oui, marqué parce que c'est un homme qui a correspondu à ma génération en tant que jeune prêtre. Donc c'était son heure de gloire à l'époque. C'était le règne de François Mitterrand dans le domaine politique. Et donc c'était des heures aussi très compliquées pour l'Église en France, avec un épiscopat qui n'avait pas été encore en partie renouvelé, qui commençait à l'être un tout petit peu. Sous le pontificat de Jean-Paul II. Donc il a eu son heure de gloire parce qu'il a été un compagnon de route de certains groupes notamment politiquement à gauche.
Alors là, on parle de Monseigneur Gaillot,
De
c'est ça?
Mgr Gaillot, oui. Et puis il a eu son heure de gloire aussi parce qu'il était très conformiste. Quand je dis conformiste, c'est-à-dire qu'il a épousé toutes les thèses de l'esprit du monde de l'époque. Et donc, évidemment, quand on épouse le monde, on a aussitôt beaucoup de succès. On l'a présenté à l'époque comme un prophète, mais bon, pour moi, l'ère prophétique s'est arrêtée avec Saint Jean-Baptiste, donc ensuite, il n'y a plus de prophète. Et sa voix n'était pas prophétique au même titre que pouvait l'être celle de Léon Blois ou de Georges Bernanos, évidemment. Donc, c'était quelque chose de très fugace, de très artificiel, mais qui a correspondu évidemment à l'esprit d'une génération. Et c'est cette génération aujourd'hui qui le pleure. Alors ensuite, bien évidemment, la mort de tout homme est une tristesse en soi. Et je ne me réjouis pas de la mort même de mes adversaires. Mais il a correspondu en effet et il demeure un symbole pour cette génération.
Il a été évêque entre 1983 et 1995, donc à Évreux. Et je crois que ça a été un peu le premier jouet ecclésiastique médiatique. Des émissions grand public où il était invité pour voilà pour ceux qui nous regardent qui peut-être moi j'étais enfant jeune mais je me souviens
Michel Drucker par
voilà
exemple.
exactement mais avec Christophe de Chavannes aussi où pour abonder ou préciser les propos du père Thomas à savoir que eh ben voilà il a alors qu'il y avait le pontificat de Jean-Paul II qui se mettait en place notamment sur les questions morales les rappels de droiture de la vie chrétienne, bah, il diffusait ça, une forme de complaisance avec la contraception, avec la question de l'avortement, avec la question des divorcés remariés, la question homosexuelle. Donc,
Sans
évidemment,
oublier l'immigration.
sans oublier l'immigration, l'accueil des... J'allais dire, pardon, mais l'accueil des personnes qui sont sans papier ou qui sont des pauvres, des exclus. m'apparaît, même s'il faut en définir les contours, m'apparaît spontanément une question objective qui peut être traitée par un évêque, par un prêtre, par un homme de Dieu.
Et tous les sujets que vous avez abordés peuvent être traités par un évêque.
Je veux dire, par là, on peut avoir accueillir un migrant chez soi ou dire que c'est bien d'accueillir les pauvres et les affligés. Ça m'apparaît déjà beaucoup plus compromettant de dire que la contraception n'a pas de problème ou que l'avortement est une question qui doit être laissée à la libre conscience de chacun. Vous voyez, enfin, il me semble en tout cas. Donc il y a eu cet aspect-là. Et le deuxième aspect que je voudrais souligner, qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il y a des messes évidemment qui s'organisent pour. Alors ce n'est pas des messes pour le repos de l'âme de Mgr Gaillot, telles qu'elles sont annoncées, même si les fruits, en tout cas, iront pour son âme, on ne peut que le souhaiter. Il y a des messes en hommage ou en mémoire de Mgr Gaillot qui sont organisées, notamment par Mgr Ulrich aujourd'hui même, où on enregistre à l'église Saint-Médard. Et donc c'est annoncé publiquement, et je crois me rappeler que le 16 novembre dernier, 2022, en l'église Saint-Roch, l'abbé Thierry Laurent a célébré une messe pour le repos de l'âme de Charles Maurras, qui lui a valu une réprimande officielle. On a dit de lui que cette célébration n'était pas signe de la charge d'enseigner et de sanctifier le peuple chrétien. Donc ça était quand même assez fort. Même le vicaire général de Paris avait exprimé à l'abbé Laurent sa réprobation, sa désapprobation la plus vive. Donc c'est quand même des termes un peu forts. Bon, je pense que tout défunt a le droit à une messe. Charles Maurras comme Mgr Gaillot, il semble que ça pose davantage de problèmes de célébrer une messe pour le repos de l'âme de Charles Maurras que célébrer une messe pour le repos en hommage à un évêque contestataire.
Oui, mais il y a contestataire, mais dans l'expression que vous avez dit, il y a évêque. Ce qui n'était pas Charles Maurras. Je suis d'accord avec vous, mais
dans leur dignité,
je pense que le rapprochement ne me paraît pas hyper pertinent, en fait.
Ce qui m'apparaît pertinent, en tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on a fait tout un pataquès pour une messe, pour le repos de l'âme d'une personne qui, à ce que sache, en tout cas sur la fin de sa vie, a exprimé en tout cas une forme de conversion intérieure, et ça ne fait pas de doute. Et que pour un évêque contestataire, on célèbre une messe avec une grande tranquillité, sans que. Donc c'est le deux poids deux mesures en fait qui m'interroge.
Alors tous les évêques contestataires n'ont pas eu droit en effet à des messes d'hommage. On peut prendre le cas de Mgr Lefebvre par exemple, qui était un évêque contestataire.
Lefebvre, mais voilà, le rapprochement me semble plus pertinent.
Et je ne vois pas d'exemple d'évêque français qui ait célébré une messe d'hommage ou même une messe pour le repos de l'âme.
Mais vous voyez, c'est ce que je dis. Le rapprochement me semble le plus pertinent parce que en stricte logique, il s'agit de deux évêques qui ont des.
C'est la démarche publique en fait qui me paraît comparable.
Mais
en fait.
on va pas faire toute l'émission là-dessus. Le père Benoît voulait intervenir.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter aux brillants propos de mes confrères que je partage assez largement. Je voudrais rajouter deux choses sur cette génération, sur le caractère que signalait le père Thomas de représentativité d'une génération. Les bruits courent comme quoi il aurait été un séminariste très traditionnel au séminaire, très très aligné, très très dans la ligne du parti pour dire les choses qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui ou celles d'avant-hier. Ça, c'est une première chose. Je note en passant, je sais que le père Thomas, nous l'avons dit hors ligne, y attache moins d'importance que moi. Je crois qu'il y a dans cette génération eu aussi le traumatisme de la guerre d'Algérie. Voilà, à plusieurs égards et dont d'autres évêques ont pu faire part. Et puis, je pense, alors ça, c'est une chose qui me vient comme ça, je ne sais pas si c'est pertinent, mais il me semble que dans le monde médiatique, dans la logique du monde médiatique, je me demande si Mgr Gaillot n'a pas été utilisé comme opposant médiatique à une autre figure beaucoup plus intéressante et beaucoup plus dans la défense de la doctrine, qui est le cardinal Lustiger, tout simplement, qui avait un grand succès médiatique, un grand succès d'audience. Et je me demande si on n'a pas essayé de fabriquer avec Mgr Gaillot une sorte d'opposant pour lui faire du tort, le mettre Mgr Lustiger moins en lumière. Je me demande. Voilà, c'était quelques petites remarques en passant sur un personnage dont je pense... l'histoire de l'Église ne gardera pas grand souvenir.
Olivier Figuard, vous voulez rebondir sur Maurras tout à l'heure.
Oui, juste pour considérer que juste pour considérer que je comprends ce que dit le père Danziec, dans la mesure où c'est une vision extérieure à la question catholique. Aujourd'hui, une messe pour qui que ce soit de décédé, c'est forcément un hommage, et pas le repos de l'âme n'a guère d'importance dans ce... J'allais dire, pas pour nous et pas dans la question de la messe, mais dans l'annonce médiatique... Ça ne compte pas, quoi. On célèbre une messe pour quelqu'un de bien qui est quasiment à la première place dans la messe, alors qu'il devrait être en train d'implorer pour ce qu'il a peut-être été. Moi, Monseigneur Gaillot, il était jeune évêque quand j'étais jeune journaliste. Le pendant n'est pas non plus très important, mais ce qui m'a étonné, c'est que moi, je suis devenu journaliste comme journaliste politique. Et que, après, je me suis intéressé aux questions religieuses, mais dans ces questions politiques, je croisais toujours Monseigneur Gaillot, y compris physiquement, dans certaines manifestations. Et c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait, c'est le début des années 80, c'est le début de la médiatisation à outrance, bien sûr pas avec la débauche de moyens que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est une nouvelle ère dans la médiatisation, et ça a sans doute été le premier coin dans l'Église de France, en tout cas, pour faire avancer certaines idées au goût du jour.
Tout à fait, certainement avec l'abbé Pierre aussi, qui était... une figure extrêmement médiatique.
Voilà, mais au moins une génération avant.
Une génération avant, oui, et dans les tribunes d'hommage qui sont parues en hommage à Mgr Gaillot, il est souligné qu'il a pris en quelque sorte médiatiquement le relais de l'abbé Pierre. Aucun de vous n'a rappelé, à mon étonnement, qu'il avait été relevé de du siège d'Évreux par Jean-Paul II, vous l'avez laissé entendre, mais qu'il était devenu... ça avait beaucoup fait couler d'encre aussi, ça, évêque de Parthénia. Donc, évêché qui n'existe plus.
Oui, c'est Partibus, mais qui était surtout médiatique, finalement, voilà, une fois de plus.
Il était allé prendre possession de son diocèse, je me souviens.
Oui, et il avait constitué, comme il y a des paroisses personnelles, il avait constitué autour de lui... avec un certain nombre de relais, une sorte de diocèse personnel, de prélature personnelle.
Alors, autre aspect que vous n'avez pas souligné, c'est... il se trouve que moi, j'étais dans le diocèse d'Évreux sous le règne de Mgr Gaillot, donc j'en ai un souvenir de terrain. C'est aussi un homme qui a énormément ordonné de diacres permanents et qui avait, semble-t-il, une vision d'une église où le sacerdoce tendrait à diminuer et serait remplacé de manière permanente, c'est le cas de le dire.
Oui, c'était en effet dans l'air du temps. Hein. Il y avait même un certain nombre de théologiens, je vois, dans la Compagnie de Jésus, qui mettaient en pratique ce type d'activité en formant les laïcs à remplacer les prêtres, c'est-à-dire qu'en assistant à des assemblées sans prêtres. Et puis Mgr Gaillot aussi, c'est un aspect essentiel de son ministère épiscopal, a passé beaucoup de temps à voyager à travers le monde. Donc il s'est fait connaître dans le monde entier. Et en tant que tel, il a été une figure d'évêque... à la pointe, oui.
Et qui portait la bonne parole.
Et qui portait la bonne parole.
Alors j'ai parlé pas tout à fait de manière innocente, je vous le cache pas, des diacres permanents, pour tenter la transition avec...
Vous désirez être diacre permanent ?
Non, pas vraiment, non.
Nous allons essayer dans ce chapitre presbytal, de discerner cela.
je note en tout cas que quand...
Non, mais ça va, je peux parler aussi.
François avait reçu Mgr Gaillot en 2015, il me semble. Il lui avait dit « nous sommes frères », ce qui est vrai techniquement, si je puis me permettre ce terme, mais ce qui était quand même aussi un moyen de le...
De le remettre en avant.
De le remettre un peu en... finalement, voilà, il n'y a pas de souci particulier.
Est-ce que vous voulez dire que le pontificat actuel incarne les idées portées naguère par Mgr Gaillot ? Vous serez plus libre
à la périphérie, à la périphérie peut-être.
Bon, alors, dans quel état sont les prêtres de France aujourd'hui ? Comment allez-vous, vous, messieurs, d'abord, en tant que prêtre, j'entends ? Père Thomas, vous avez pris la parole le premier tout à l'heure, donc...
Voilà une question bien personnelle. Et puis, bon, prêtre, mais vous parlez du clergé séculier ou du clergé régulier ?
J'embrasse tout le monde, moi.
Ah, vous embrassez tout le monde, oui. Alors, bon, les prêtres vont comme, j'allais dire, les autres chrétiens dans l'Église actuellement. Ils ont des problèmes qui sont souvent identiques, avec peut-être des problèmes supplémentaires, à savoir que, bon, quand on est laïque, on ne vit pas uniquement dans le cercle ecclésiastique. On a une vie familiale, une vie professionnelle, etc. Quand on est prêtre, on est constamment, et bon, on s'est engagé pour ça, on est constamment dans le milieu ecclésiastique. Donc on se rend compte, et je pense qu'un certain nombre de jeunes prêtres déchantent rapidement, on se rend compte que l'adversaire qu'on présente toujours comme à l'extérieur n'est pas uniquement un adversaire qui est étranger, mais on découvre aussi la figure de l'adversité au sein même de l'Église. Et c'est peut-être une caractéristique nouvelle par rapport à des générations plus anciennes.
C'est-à-dire, vous pensez qu'autrefois, ces générations de prêtres, mais l'autrefois est un peu vaste, là,
oui,
n'étaient pas confrontées à l'adversité au sein de...
Alors, il y a toujours
au sein du clergé ?
Toujours eu des adversités, mais qui étaient plutôt des adversités de type doctrinal. Maintenant, l'adversité est souvent une adversité très émotionnelle. Et bon, le clergé passe beaucoup de temps, je trouve. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas connu le clergé au XVIIe siècle, mais il me semblait, d'après ce qu'on peut en lire, que c'était un peu moindre. Passe beaucoup de temps dans la calomnie, dans la médisance, dans les rumeurs, dans le jugement des confrères. Bon, il y a aussi des aspects qui ne sont pas nouveaux, comme l'activisme ou l'arrivisme. Ce ne sont pas des choses nouvelles sous le soleil. Mais il me semble tout de même qu'il y a des aspects qui sont beaucoup plus prononcés, en tout cas, même s'ils n'étaient pas absents dans les siècles précédents, qui sont plus prononcés aujourd'hui.
Si on n'a pas toujours la tentation d'exagérer les difficultés du moment présent auquel on est confronté et d'exalter un petit peu.
Oui, certes, mais oui.
Les aspects positifs du temps passé.
Certes, mais on est quand même dans une période de l'histoire de l'Église qui est entièrement nouvelle par le fait même que les hommes ne sont pas pires qu'autrefois, et les hommes d'autrefois n'étaient pas meilleurs, mais c'est l'édifice de la doctrine et de la foi qui est ébranlé, avec une hiérarchie qui, cette fois, n'est plus forcément la gardienne telle qu'elle a pu l'être pendant 2000 ans.
Très bien. Père Thomas, vous qui... Père...
Quel compliment, voilà,
je suis tellement fasciné.
J'en rougis.
Je suis tellement fasciné. Monsieur l'abbé Benoît.
Alors, passe d'après
Merci,
droit à l'autre.
Monsieur le docteur en chef. Écoutez, on dit que toute généralisation est abusive. Je ne connais pas tout le clergé français, pas le jeune clergé davantage en tant que corps. Je connais des visages. J'ai l'impression, en tout cas, d'une certaine dichotomie. Je vois beaucoup de prêtres plus jeunes ou de ma génération, très engagés dans leur ministère, très dévoués. Et donc, voilà. Mais évidemment, confrontés à des difficultés d'ordre divers. Je ne peux que répéter très bêtement ce qu'a dit le père Thomas en disant que, voilà, on est dans période de crise. Est-ce que l'Église n'a pas toujours été en crise depuis 2000 ans ? Ces crises varient. Celle-ci a un caractère particulier. Je serais tenté, mais peut-être aussi par obsession personnelle, de constater qu'il y a une dichotomie peut-être encore plus grande qu'au grand siècle entre le haut et le bas clergé. Ça, c'est sûr qu'il y a un clergé, disons, engagé dans les structures diverses, qui a son propre agenda, tandis que le clergé de base a le sien, il est différent, et la communication entre l'un et l'autre niveau n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas excellente.
Et plutôt que d'utiliser des termes qui renvoient évidemment au grand siècle, ou à l'ancien régime, en tous les cas, de haut clergé, de bas clergé, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de nomenclatura?
Et si vous voulez employer le vocabulaire soviétique, je veux bien.
Non, mais reflèterait une réalité ?
À mon avis,
les deux
manières d'analyser la situation reflètent cette rupture, cette coupure entre une partie, disons, de l'épiscopat au sens large et de son entourage proche qui a son propre agenda, ses propres logiques, ses propres... Alors,
ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au siècle passé, enfin aujourd'hui, ça date des années 60, il y a des structures ecclésiastiques qui ont été mises en place, qui chapeautent au niveau national, qui génèrent des fonctionnements, qui génèrent également des comportements... au sein du clergé qui lui appartient.
Je serais assez enclin à penser que le nombre du clergé dans les diocèses faisait que ces structures étaient déjà en germe et en petit, et, voilà, dans l'entourage de l'évêque, dans la cour épiscopale. Enfin voilà, il y avait de quoi faire déjà un lien entre les prêtres de base et puis tout. Une camarilla occupée de ses propres agendas, de ses propres priorités. Voilà, après, il y a des exceptions, il y a des choses, voilà. Et puis, il y a un grand éclatement aussi de la figure épiscopale, des diocèses, qui fait que c'est difficile d'avoir un avis général, mais on sent qu'il y a quand même... il y a des difficultés propres, dont celle-là, que je me permets de souligner.
Père Donziac.
Alors,
vous qui êtes le plus jeune de la bande, si je puis me permettre de parler comme ça.
C'est quand même déjà 11 ans que je suis prêtre.
Oui, mais ça, c'est intéressant. Oui.
Trois diocèses dans lesquels je suis passé. Au rythme de mes nominations dans le pastoral. La première chose, en effet, je rejoins que ce n'est pas d'abord la comparaison avec le passé qui est intéressante en espèce, me semble-t-il, d'abord. C'est les faits actuels. Et la question, c'est est-ce que les prêtres vont bien ? Moi, je vous dis non. C'est évidemment que le clergé est en crise.
Merci, enfin,
je le dis tel que je le constate. Il y a un réel manque d'épanouissement dans la vie sacerdotale chez beaucoup de confrères. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le père Thomas sur la question de la médisance. Mais cela, à la limite, le curé d'Ars en parlait déjà. Il disait déjà son dégoût des repas avec le clergé. Moi, je dirais, pardonnez les téléspectatrices et les auditrices, mais il y a un côté très féminin dans le clergé, fait de jalousie, de coterie, de cancan.
On va avoir tous les problèmes possibles.
Mais je le dis, voilà, parce que c'est très dans la comparaison. Il y a beaucoup de frustration aussi. Moi, je noterai trois crises dans le clergé. Il y a une crise d'identité, une crise de responsabilité, une crise de représentativité. Je m'explique. La crise d'identité, c'est de mémoire la dernière catéchèse qu'a faite le dernier sermon ou enseignement qu'a donné le pape Benoît XVI, son dernier jeudi saint, donc en 2012. Il dit « Sommes-nous des hommes qui agissent à partir de Dieu et en communion avec Jésus-Christ ?» C'est une vraie question, et ça, c'est l'identité sacerdotale. Est-ce que les prêtres, aujourd'hui, ont conscience, à travers leur enseignement, à travers leur formation, d'être des représentants du Christ? Donc ça, je pense que c'est déjà aussi quelque chose qui est passablement attaqué par l'univers progressiste, mais aussi par la question du cléricalisme, etc. On presque la honte de se prévaloir d'être le médiateur de Dieu. Voilà. Qui êtes-vous pour être le médiateur de Dieu? Or, on a quand même été ordonné pour ça. Voilà, parce qu'il n'y a que les mains sacerdotales qui peuvent faire descendre Jésus aussi sur l'autel. Ça, c'est comme ça, c'est une donnée de foi. Crise d'identité, donc les prêtres eux-mêmes ont du mal à se situer en tant que prêtres, à mon sens, tel que je peux le constater. Crise de responsabilité avec justement ce pouvoir un peu dilué, l'infantilisation du prêtre. Moi, j'ai quand même des confrères en parlant avec eux, par exemple, s'ils veulent refaire la cuisine dans leur presbytère, il faut... Non, mais ce sont des faits. C'est eux qui font rentrer l'argent et par des bienfaiteurs. Et pour refaire la cuisine dans leur presbytère, il faut l'avis d'un conseil économique de tout un tas de personnes. Moi, on ne me demande pas ma permission pour refaire la cuisine. Si un de mes paroissiens veut refaire la cuisine chez lui, si vous voulez. Donc, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des instances de contrôle. Mais certaines fois, le prêtre lui-même est vraiment très diminué dans son pouvoir de décision, que ce soit pour la préparation des cérémonies, par exemple d'obsèques ou de mariage, que ce soit pour le catéchisme. En fait, tout est gangréné. Donc, crise vraiment de responsabilité où lui-même, c'est Monsieur le curé fait sa crise, le fameux petit ouvrage qu'il avait des écrits qui en parlent, et je crois que ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, il y a une crise de représentativité. Qu'est-ce que c'est que le prêtre aujourd'hui dans la pensée, dans l'univers public? Voilà. De quelle manière le prêtre est-il appréhendé? On le voit dans les films. Qu'est-ce que c'est que le prêtre? Soit il est nié, soit c'est un homo refoulé. Voilà, dans, on le voit dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Oui, c'est un pervers sexuel, de toute
façon. Oui, ou une sorte de. Oui, mais enfin, quelqu'un de déréglé, si vous voulez, de curieux, mais plutôt de méprisable. Or, autrefois, et c'est là où peut-être il y a une comparaison avec le passé, autrefois, la figure du prêtre dans la pensée commune. Vous prenez Monseigneur Myriel, Victor Hugo, Les Misérables. C'est le bienfaiteur de Jean Valjean, avec ses deux chandeliers d'argent. Jean Valjean lui dérobe un chandelier, il se fait arrêter par la maréchaussée. Et qu'est-ce que fait Monseigneur Myriel? Il dit « Vous avez oublié le deuxième, pour l'innocenter ». C'est le curé Chélan, le bienfaiteur de Julien Sorel, même plus proche de nous. C'est l'abbé Pierre, ce prêtre en soutane, le bienfaiteur des gens au moment de l'hiver 54, qui aide les populations défavorisées. Donc il y a, si vous voulez, dans l'image d'Épinal du prêtre, pendant longtemps, ça a été l'homme de compassion. L'homme de confiance, en règle générale, c'était ça. Aujourd'hui, un prêtre, c'est d'abord un être suspicieux, un possible abuseur, un potentiel prédateur. Et ça, je crois que c'est dans cette représentativité, il faut être un peu courageux, il faut être un peu solide quand on est prêtre aujourd'hui pour assumer son sacerdoce d'une façon publique. Et cette crise de représentativité, ajoutée à cette crise d'identité, ajouter à cette crise de responsabilité, fait que le clergé n'est pas forcément toujours à son aise. Alors, à la grâce, à titre personnel, vous voyez, votre question, est-ce que je suis heureux d'être prêtre? Je vais vous dire, ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Je ne vais pas vous dire, et je n'aime pas trop, j'avoue aussi, et après je laisse la parole, je n'aime pas trop cette idée qui consiste à dire que dès qu'on dit à un prêtre qu'il doit témoigner à une vidéo diocésaine ou publiquement, ah oui, je suis très heureux dans mon sacerdoce, je suis très épanoui, je suis marié avec la Sainte Vierge, etc. C'est magnifique. Non, en fait, c'est difficile, certes, d'être célibataire, c'est difficile d'être seul, c'est difficile de ne pas être considéré, c'est difficile de ne pas être aimé, c'est difficile de ne pas avoir d'argent, etc. etc. Tout ça, c'est des sujets auxquels le prêtre est confronté, et la formation sacerdotale, idéalement, doit amener le candidat au sacerdoce et ensuite le prêtre dans sa fonction à assumer ses difficultés, comme des jeunes fiancés qu'on prépare au mariage, à assumer les difficultés de la vie conjugale. Pas que les difficultés, aussi les joies, mais aussi les difficultés.
Voilà. Merci. Olivier Figueras.
Alors moi, vous l'aurez noté, je ne suis pas prêtre, et je ne vois donc les choses que de l'extérieur.
Pas de prophète et roi.
Au titre de votre baptême, un petit peu quand même.
Alors il y a la question du sacerdoce commun, évidemment, mais enfin bon.
On va pas se lancer aujourd'hui.
Ça serait un peu compliqué d'entrer dans ce débat.
Nous n'aurons pas le temps.
Il me semble qu'il y a, vu de l'extérieur, une fois de plus, plusieurs difficultés chez les prêtres. Moi, j'ai connu à peu près, disons, trois générations de prêtres. Les premiers qui étaient des très vieux prêtres qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont morts, qui avaient été ordonnés avant le concile et qui finalement s'étaient enfermés dans leur solution, qui souffraient éventuellement ou pas, selon les cas, de la situation qui commençait à naître, mais qui s'étaient enfermés dans leur solution, certains en abandonnant le sacerdoce, d'autres en s'enferrant dans leur position et en n'en bougeant pas. Et puis après, il y a la génération de ceux qui sont arrivés, qui sont aujourd'hui peut-être dans les plus modernes. J'ai été très surpris, il y a quelque temps, en allant à un enterrement en grande banlieue parisienne, de voir un vieux prêtre qui avait bien 70 ans, qui en était encore à un vieux prêtre
pas régulier. Continuez.
Il n'y a pas de vieux prêtre chez les réguliers. Les réguliers n'ont pas d'âge. Et qui continuait à célébrer la messe comme on avait pu en voir dans les années 70, avec une patronesse à côté, enfin bon, quelque chose dont je pensais que ça n'existait plus que dans les images d'archives. Et puis, il y a les prêtres plus jeunes que moi, finalement, qui se trouvent confrontés à deux situations. La première, c'est que souvent, ils ont, contrairement aux générations précédentes, un problème avec l'Église enseignante. Il y a une espèce de défiance de plus en plus grande chez ces jeunes prêtres. C'est que l'Église enseignée regarde l'Église enseignante et dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là ?» J'en croise très régulièrement lors de lors de mariage, par exemple, ou quand je vais dans les...
Et vous, n'arrêtez pas de sortir, vous, oui.
Ah oui, ben je bouge beaucoup. C'est
peut-être préciser,
c'est
est-ce que c'est l'église enseignante? Parce que l'église enseignante, ce sont les papes et les évêques, et l'église enseignée, ce sont le peuple des fidèles et les prêtres. Voilà.
Et qui me disent, mais nous, on s'arrangeait très bien dans notre paroisse. Voilà, il y avait les demandes de messe en forme, je ne sais plus comment il faut dire d'ailleurs maintenant, mais enfin bon, à l'ancienne, voilà. Et on y répondait quand ça se présentait, et puis... Et maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus, on ne comprend d'ailleurs pas ce qu'on nous raconte. Donc, alors, ces jeunes prêtres, la plupart du temps, la seule solution qu'ils trouvent pour ne pas trop souffrir de la crise, c'est de prendre des moyens un peu traditionnels. Alors, chez certains, c'est d'employer un peu de latin dans l'échange, chez d'autres, de porter la soutane. Enfin, de quelque chose qui leur permet de se raccrocher. C'est assez curieux. Et j'en rencontre assez souvent, et je trouve ça admirable d'une certaine façon, parce que je n'aimerais pas être traité comme ils le sont. Mais, et d'autres, parmi leurs confrères, dans la même génération, qui n'arrivent pas à trouver de solution, et alors ils partent dans des travers, ils laissent tomber leur église, ils font tout et n'importe quoi, ça n'est pas forcément des problèmes sexuels.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est, pardon je vous coupe, mais c'est un peu l'objet de d'un article récent de Jean-Marie Guénois dans le Figaro sur justement le malaise au sein des jeunes prêtres. Jean-Marie Guénois souligne justement, comme vient de le faire Olivier Figueras, la difficulté de ce clergé, en gros, né sous Jean-Paul II, né qui a grandi sous Jean-Paul II et Benoît XVI, qui a du mal aujourd'hui à se reconnaître dans l'enseignement pontifical actuel, mais pas simplement dans l'enseignement, en fait. Plus dans le comportement, ou dans la dénonciation qu'on a entendu beaucoup au début du pontificat de François, du cléricalisme, etc. Moi qui m'a toujours paru hors saison, enfin complètement hors sol, voilà, merci, sans rapport avec aucune réalité, en tous les cas pour les prêtres d'Occident. Père Dandier, vous vouliez répondre peut-être.
Je pense que c'est un peu ce qu'a évoqué l'abbé Benoît, à savoir qu'il y a quand même un décalage qu'on peut observer. Alors ça, je ne sais pas aussi s'il existait autant avant. Je n'en sais rien. Ce que je constate.
Mais parlons d'aujourd'hui.
C'est aujourd'hui qu'il y a vraiment une. On a l'impression que certaines fois, on vit dans deux mondes différents, entre le monde des âmes, du terrain, des familles, de la catéchèse, etc., la préparation au sacrement. Et la structure, si vous voulez. La structure avec l'appareil ecclésial français. Voilà. Donc les évêques, les structures, les cures diocésaines, etc. Voilà, je constate, hein, juste maintenant, les racines de tout ça, elles sont profondes. Il ne s'agit pas forcément de les balayer. Puis je ne sais pas forcément si moi-même, mon analyse serait pertinente pour le coup. Mais il me semble qu'il y a quand même un décalage et que souvent... Pourquoi le clergé, jeune clergé est perdu? Est-ce qu'il ne sent pas... Moi, je pense que le jeune clergé a besoin de trois choses. Il a besoin d'un peu d'écoute, d'un peu de considération et d'un peu d'encouragement. Et souvent, en fait, on ne sait pas à qui s'adresser. Les confrères, l'évêque, il ne le voit peu. Ou quand il le voit, c'est pour se faire taper sur les doigts parce qu'il a reçu des lettres de dénonciation de gens qui n'étaient pas contents. Et surtout, il faut des choses, en fait, il ne faut pas d'histoire. Tant qu'il n'y a pas d'histoire, tout va bien. Or, finalement, s'il y a un peu d'écoute, encore une fois, trois évêques, je n'ai jamais eu d'occasion où un jour, un évêque m'a dit, écoutez, mon ami, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une question toute simple, c'est une question éminemment paternelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on a surtout l'impression, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, pour que je n'ai pas d'histoire, en fait. Voilà. Et ça, c'est un peu problématique.
Si vous me permettez de prolonger, comme je suis entre deux générations dans la Via Media. Non, c'est juste pour dire, je suis 150% d'accord avec l'abbé Danziek, pour dire, et je vais prendre un exemple très concret. J'ai plus de 30 ans de sacerdoce. Je ne suis pas certain d'avoir jamais fait l'objet, entre quatre yeux, entre un père et son fils, entre un évêque et son prêtre, d'une évaluation, en disant, il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas.
d'un entretien annuel, on dit, en entreprise, effectivement.
Voilà, exactement. Alors, sans rentrer dans l'idéologie entrepreneuriale...
Oui, bien sûr, qui est un autre danger, effectivement.
Qui est un autre danger, on pourrait en parler, et qui est un danger très actuel aujourd'hui dans l'Église, mais peut-être aussi en vertu du vide que signalait l'abbé Danzig pour dire, voilà, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de... Et du coup, ben oui, on ne sait pas où on en est, quoi.
Même si je pense, le père Danzig parlait... ne parlait pas, mais je parle à sa place, et il me contredira si je me trompe, ne parlait pas d'abord d'évaluation, mais de...
Enfin, quand je dis évaluation, beaucoup...
D'écoute, hein, c'est...
Oui, c'est ça.
Mais quand je dis évaluation, ça peut être aussi une évaluation dans laquelle on met sur la table les points favorables.
Oui, bien sûr. Le père Thomas voulait aussi réagir au propos du père Danzig, donc...
Oui, de façon générale, à propos du jeune clergé. Tout d'abord, le clergé ne se résume pas aux jeunes clergés en France.
Oui, bien sûr.
Il y a aussi le problème, je pense, du vieux clergé, qui est sans doute différent. Je m'en rends compte, ne serait-ce que dans ma communauté, parce que les ordres religieux sont généralement vieillissants. Et puis le jeune clergé n'est pas lui-même monolithe. Il y a une partie du jeune clergé qui est tout à fait dans le système, et une autre partie qui essaie de réagir, alors comme il peut, avec beaucoup de souffrance. Et puis, un troisième aspect, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clergé en France ne se résume pas au clergé diocésain. Il y a aussi un clergé régulier.
C'est pour ça que vous êtes là.
Alors qui est certes peut-être moins nombreux, mais qui a une influence non négligeable, y compris sur le clergé diocésain, et notamment en ce qui concerne la formation du clergé diocésain. Donc il y a une multitude d'imbrications. Ce n'est pas simplement l'évêque avec son clergé dans les diocèses, d'autant plus qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle du diocèse en tant que tel a un peu éclaté. Et même si on parlait autrefois d'église plus ou moins nationale, ça a aussi éclaté, parce que la plupart des choses, dans la crise actuelle, la plupart des choses sont gouvernées par l'église romaine, donc qui donne le ton. Et les attaques, notamment les critiques, tout au moins, si on ne veut pas parler d'attaques, envers le clergé proviennent essentiellement d'abord de Rome, ces critiques constantes contre le cléricalisme, alors qu'on attendrait d'abord d'un évêque, et à plus forte raison du premier parmi eux, d'aimer les prêtres. S'il y a vraiment une tâche épiscopale primordiale, c'est bien ça, c'est d'aimer les prêtres, quel que soit le prêtre et quels que soient les prêtres.
Et moi, j'ai été frappé à ce propos par une déclaration de Mgr Beau, archevêque de Bourges, qui présentait les ordinations de l'an dernier, 122 ordinations en France, et qui explique froidement, ben non, il ne faut pas parler de baisse du sacerdoce, et qui dit il est important de ne pas prendre le parti de la baisse du nombre de prêtres et de la diminution des vocations. Ça veut dire quoi, prendre parti? C'est pas une question idéologique, les chiffres. Les chiffres ne sont pas idéologiques. En 1995, on avait 28 694 prêtres en France. En 2020, 25 ans après, on en a 10 188. Les deux tiers ont disparu. On a moins de prêtres qu'il n'y a de paroisses. Qu'est-ce que c'est que prendre le parti? Je crois qu'il y a une vision du clergé au niveau épiscopal, ou en tout cas de certains évêques, qui est de regarder la chose en disant « mais si vous dites ça, c'est que vous êtes en train de condamner l'Église » ou je ne sais quoi. Il y a une espèce de hier qui n'a rien à voir avec la réalité.
Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que comme l'émission va arriver à sa fin, que faudrait-il aujourd'hui? Que peuvent faire par exemple les laïcs pour les prêtres qui les entourent? Ne pas les remplacer, vous allez me dire. C'est peut-être une première chose, c'est très concret parfois dans la vie paroissiale.
En fait, ce qui est difficile, me semble-t-il, c'est que, je l'ai dit dans mes propos liminaires, les prêtres eux-mêmes sont confrontés à la crise, une crise d'identité. Qu'est-ce que c'est que le prêtre? Et je pense que beaucoup de cette définition qui était univoque, ou passablement univoque autrefois, est déjà elle-même aujourd'hui confuse. Et elle l'est aussi chez les fidèles. Donc les fidèles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur prêtre? Mais déjà, quelle est leur conception du prêtre? Parce que s'ils attendent, et que ce soit les univers progressiste ou conservateur ou traditionnel, si on, les fidèles attendent du prêtre qu'il soit bon prédicateur, bon chanteur, évidemment chaste et pur, mais capable d'animer un camp d'été avec des jeunes filles en mini-short en Corse, si vous voulez, qui soit évidemment disponible...
Ça, c'est la Corse qui pose problème.
Okay. Qui soit disponible, évidemment, à toute heure pour les personnes âgées, et en même temps, qui soit capable d'entendre les couples qui se déchirent ou qui ont traversé des difficultés, vous comprenez ? Il y a toujours un peu...
Vous oubliez administrateur, organisateur, bricoleur, jardinier, etc.
Il me semble que, déjà, en fait, il faut redonner pour aider les fidèles à aider leurs prêtres, il faut peut-être que les prêtres eux-mêmes expliquent aux fidèles, avec courage et conviction, ce qu'est le prêtre. Et vraiment, s'il y avait trois choses, j'ai déjà dit, il y a l'homme de compassion, ça on l'aura compris. Le prêtre, c'est aussi l'homme du culte, c'est l'homme de l'autel. Le cœur nucléaire de la vie du prêtre, c'est quand même la prière, l'offrande de la messe. C'est pas très avantageux, si vous voulez, j'utiliserai un autre adjectif c'est pas très sexy en soi dans la pensée d'aujourd'hui de se dire qu'on est à l'autel, qu'on est au confessionnal, etc. Et pourtant, c'est là où de grandes choses se passent. C'est l'homme de la verticalité. Or, aujourd'hui, déjà, première confrontation pour le prêtre, on vit dans un monde où on rentre partout de plein pied, le monde de l'horizontalité. Et ensuite, le prêtre, c'est aussi l'homme du courage. Voilà. Le courage de la fidélité, le courage de la persévérance et le courage du temps long. Et je lisais l'interview que donnait Patrick Buisson au Point à l'occasion de son dernier livre « Décadence » et on lui demandait quel est le conseil que vous donneriez à Emmanuel Macron aujourd'hui. Et il dit « je lui dirais, la première chose, de s'inscrire dans la liberté que donne le temps long ». Or, aujourd'hui, c'est aussi une difficulté auxquelles sont confrontés et les paroissiens et les fidèles. Et les prêtres, pardon, c'est le déplacement des prêtres tous les 3 ans, tous les 6 ans. Et ça, c'est une vraie question, parce que comment le prêtre peut-il s'imposer, s'insérer dans un temps long, le seul qui est en mesure de lui donner la pleine liberté à son courage. Le courage du temps long, c'est de savoir que finalement, on sera jugé sur nos œuvres qu'on accomplit avec les permanences, avec le labourage des âmes, et ça réclame du temps. La terre des âmes réclame du temps, ça ne se fait pas en 3 ans, la conversion d'une paroisse. Le curé d'Ars en est l'exemple. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'aider les fidèles à donner du courage aussi à leurs fidèles, à se laisser saisir par son ministère.
Merci Père Danziac, même question et moins de temps.
Désolé, je suis désolé.
Place aux jeunes. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter que... Non, simplement, il faut que chacun retourne effectivement aux sources, au Christ, à l'Esprit Saint, et c'est dans cette verticalité, sans irréalisme et sans infantilisme, que le prêtre soit une figure de père sans que les fidèles ne soient des enfants infantilisés, etc. Enfin, il y a des tas de pistes, mais bon, voilà, alors je pense que tout simplement le retour, la radicalisation au sens de retrouver nos racines, les uns comme les autres, les uns au service des autres.
Très bien, merci Monsieur l'Abbé.
Je vous en prie.
Mon père.
Alors, il me semble que tout prêtre devrait retrouver une vie ascétique intérieure, parce que c'est le seul moyen de tenir bon, justement. Sinon, le prêtre, c'est un homme, et il connaît les mêmes fragilités que les autres êtres humains, d'autant plus que les jeunes générations ont en amont des fragilités, alors pour le coup, qui n'existaient pas forcément autant par le passé. Donc s'il n'y a pas cette vie ascétique personnelle, le prêtre, nécessairement, il aura beau être mis sur un piédestal par ses fidèles, ou bien au contraire être considéré comme le copain, il ne pourra pas tenir bon. Donc dans le monde actuel, il faut cette vie ascétique.
Très bien, merci Père Thomas. Olivier Figuera, je vous propose de conclure en peu de mots sur ce que vous attendez du prêtre aujourd'hui en tant que laïc. Eh oui, il faut se lancer.
Sur ce que j'attends du prêtre, c'est qu'il le soit justement, qu'il n'essaye pas d'essayer de répondre à des questions qui sont celles des laïcs dans le monde civil où il est et où il n'attend pas le prêtre pour avoir des réponses. Ce qu'il faut, c'est que le prêtre réponde effectivement aux questions que se pose non pas l'homme du monde d'aujourd'hui, mais le fidèle qui vient à l'Église. Et c'est un peu ça le... ce qui manque souvent. C'est d'ailleurs assez paradoxal dans cette crise d'identité dont parlent ces messieurs autour du prêtre, de voir qu'il y a tellement de prêtres qui, enfin ceux qui restent, qui trouvent que la vie est difficile, et tellement de gens dans le laïcat qui voudraient aller à leur place. C'est quand même quelque chose d'un
oui,
peu...
Oui, personne n'est à sa place, finalement.
Voilà, personne n'est au bon endroit. Bon, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'homélie que Mgr Cordileone de San Francisco a faite au moment de la messe chrismale cette année, et où il a dit à ses prêtres, écoutez, le prêtre, c'est celui qui célèbre l'Eucharistie, c'est pas les fidèles qui viennent je sais pas quoi, et sans l'Eucharistie, nous ne sommes rien. Bah, au moins, c'est un propos clair, et le fidèle peut s'y retrouver plutôt que d'essayer d'imaginer lui-même ce que le prêtre doit être.
Merci beaucoup, messieurs, pour votre regard sur le sacerdoce aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un autre sujet, peut-être un peu en continuité ou en correspondance en tous les cas avec celui-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. En attendant la semaine prochaine, que Dieu vous garde. Au revoir.